Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire cette journée. Je suis Nathanaël Mathieu, directeur recherche et culture chez Worklib. Ça fait une dizaine d'années que j'accompagne les entreprises dans leur transformation des pratiques et espaces de travail. Et aujourd'hui, je vais vous partager notre regard sur les transformations en cours, enfin, le regard de Worklib également. Worklib, on vous l'a expliqué à certains hier, c'est une plateforme d'espaces de travail. Donc les espaces de travail, c'est un peu notre terrain de jeu. Et donc je vais commencer par les espaces de travail aujourd'hui, parce que nous, on travaille sur les espaces de travail flexibles, on essaie de créer la fluidité entre vos espaces internes et des milliers d'espaces de travail à l'externe, et ils nous apprennent beaucoup. Aujourd'hui, on pense que les espaces de travail, ils sont un peu la conséquence, en fait, des choix que vous faites en termes d'organisation, en termes de pratiques de travail. Ils expriment des choses, ils parlent ces espaces, ils parlent à vos collaborateurs, ils nous parlent à nous, et aussi ils décrivent une histoire de comment évoluent nos cultures d'entreprise, et comment évolue notre organisation du travail. Et donc, aujourd'hui, je vais partir de ces espaces pour vous raconter la vision et le regard qu'on a sur comment nos entreprises évoluent. Le premier constat, aujourd'hui, c'est que finalement, ce bureau, il n'est plus le centre de l'univers, et ça a plein d'impact. Là, c'est la data qu'on a sortie de nos centaines d'entreprises qui sont clientes, et il y a vraiment tout type de clients. Que ce soit l'administration, la région de France, jusqu'aux grands cabinets de conseil, des start-up, jusqu'aux boîtes plus traditionnelles comme Bell ou Accor. Donc c'est vraiment très divers. Et quand on regarde la data réelle du nombre de jours travaillés par localisation, donc quelle est la géographie du travail aujourd'hui, on s'aperçoit que le bureau ne représente plus qu'une petite moitié du temps passé au travail. Et donc c'est hyper intéressant parce que derrière, il y a plein d'espaces qui complètent ça, évidemment le domicile, mais plein d'autres espaces, on y viendra derrière. Et qu'est-ce que ça veut dire au-delà du constat pratico-pratique de là où on est? Ça induit qu'il y a aujourd'hui une vraie liberté, une vraie appétence pour un nouvel imaginaire de travail qui fait que nos collaborateurs sont en attente de flexibilité, d'autonomie, mais aussi de plus d'interaction. Et donc tout ça, aujourd'hui, c'est des enjeux qu'on doit arriver à traiter d'un point de vue entreprise et RH. Alors, je vais aller très vite sur ce que l'on constate au niveau du bureau, puisque finalement, le bureau, aujourd'hui, c'est le premier terrain de jeu pour retravailler sur ces équilibres entre distance et interaction. C'est hyper intéressant. C'est sur le bureau, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il va être plus petit, plus collaboratif, plus flexible. On a parlé de flex officière. Mais qu'est-ce qui se trame derrière? Et on en parlait hier en atelier. La question, c'est pourquoi on va au bureau aujourd'hui? Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre de l'intention dans le fait d'aller au bureau. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Des usages, des besoins de socialisation, des besoins de collaboration, mais aussi des réflexions sur qu'est-ce qu'on fait pour animer quand on est au bureau? Qu'est-ce qu'on fait au niveau collectif, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'équipe? Qu'est-ce qu'on doit modifier au niveau du manager? Ce qu'on a appris avec la transformation du travail hybride, c'est qu'aujourd'hui, l'organisation du travail, elle se gère plus uniquement au niveau de l'entreprise. L'équipe est devenue le maillon fort. C'est devenu le lieu où beaucoup de choix en termes d'organisation du travail se passent. Et donc, derrière cette simple transformation du siège, on voit qu'il y a énormément d'enjeux organisationnels qui se trament. Au-delà des espaces, on vous l'a présenté un peu au fil de ces deux jours, avec mes collègues, il y a énormément d'espaces de travail complémentaires qui voient le jour. Des espaces de coworking, des espaces de lieux pour se retrouver en équipe, au vert, des espaces même de workation qui permettent à vos salariés d'aller travailler pendant 2 semaines, 3 semaines dans des lieux au bord de mer ou à l'étranger. En fait, on pourrait se dire que c'est des signaux faibles, mais comme vous l'avez vu sur les données que je vous ai montrées, en fait, ces lieux, ils représentent une part non négligeable maintenant des endroits où les gens travaillent. Mais au-delà encore du constat pratico-pratique, qu'est-ce qui se trame derrière ces nouveaux lieux? C'est bien plus qu'une diversité de lieux qui est donnée à des salariés. C'est des réponses à des enjeux stratégiques de la boîte. Quand on propose du coworking, qu'est-ce qu'on cherche à faire? À doper son attractivité, à répondre à des situations d'isolement, à des besoins de qualité de vie en proposant des espaces à proximité du domicile, en donnant plus de créativité, en permettant d'accéder à des lieux inspirants, à des lieux qui permettent de toucher à de nouvelles communautés, à sortir de la boîte, justement. Tout ça, c'est des enjeux de créativité, de qualité de vie, des enjeux aussi d'attractivité, évidemment, quand on voit les besoins qu'il y a maintenant pour toucher des équipes tech qui sont de plus en plus en full remote un peu partout, en France ou à l'étranger, et qui ont parfois besoin de ces espaces aussi pour se retrouver, on voit bien que derrière tous ces sujets espaces, il y a les enjeux stratégiques de vos entreprises demain d'un point de vue RH. Et si je vais plus loin, en commençant à aller vers le sujet qui animera l'échange de tout à l'heure, du digital et de comment ça va nous transverser, ces espaces de travail, ils sont aussi virtuels. Alors, je n'ai pas juste rajouté cette slide cette nuit en me disant qu'il y avait des fans de jeux vidéo vintage, j'en ai trouvé pas mal hier en discutant, mais ce que vous voyez là, Allianz l'a mis en œuvre depuis maintenant un an, pour justement non pas remplacer le bureau, mais compléter l'expérience de travail. Concrètement, proposer à leurs salariés qui sont en travail hybride et à distance, de rajouter de la proximité quand ils sont à distance, justement, en permettant, grâce à cette technologie, ces Work Adventure, de pouvoir se retrouver dans un espace de bureau virtuel. Pourquoi c'est important ? Parce qu'au-delà du travail hybride, il y a aujourd'hui énormément d'entreprises qui utilisent ce genre d'outils pour des enjeux de recrutement, d'onboarding, de masse, avec des résultats notamment sur les jeunes diplômés qui sont incroyables par rapport au recrutement en physique. C'est très intéressant parce que derrière, ça montre que ces sujets du virtuel et de l'hybride s'embrassent et se complètent. Si je continue dans mon fil autour des jeunes diplômés et de leurs attentes, et que je sors des espaces pour aller vers cette logique de flexibilité, vous l'avez vu, il y a une grande flexibilité qui est attendue sur les lieux. Mais pas que. La flexibilité aujourd'hui, chez nos collaborateurs, notamment les plus jeunes, ceux qui arrivent, elle se pose sur tout. C'est une flexibilité à 360 degrés. Il y a une étude qui est sortie il y a moins d'un an, qui a été menée par les chercheurs du cabinet OBA et par la chaire Next, qui montre que finalement, ils ont interrogé des milliers de jeunes diplômés ou de futurs jeunes diplômés sur leurs attentes à horizon 2030 sur le travail. C'était très intéressant parce que ce qu'il en ressort, c'est une ultra-flexibilité. Ils veulent de la flexibilité sur les contrats de travail. Alors, freelancing, slashing, tout ce que vous voulez. Ils veulent de la flexibilité sur les missions, sur le contour des jobs, avec du job crafting, on peut bouger, on peut mettre à sa manière. De la flexibilité sur les modes de management, évidemment, avec des roulements managériaux, de la flexibilité aussi sur les temps de travail, évidemment. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va, avec ça, vers une individualisation de l'expérience de travail. Et aujourd'hui, vous, nous, moi, dans mon entreprise, on met en place des réponses pour accompagner cette personnalisation de l'expérience de travail. Là, c'est l'exemple de Lyon, la métropole de Lyon, qui, depuis début du mois, là, a mis en place tout un package d'innovations organisationnelles et aussi d'avantages salariés pour accompagner ces nouvelles attentes. Je pense que tous, vous réfléchissez à ce que vous pouvez mettre à disposition de vos collaborateurs pour répondre à ces besoins et faire en sorte qu'ils puissent piocher dans ces besoins-là. Mais ça pose des questions. Pour moi, ça pose des questions sur jusqu'où on peut aller dans cette logique d'individualisation. Comment on appréhende finalement ce paradoxe, et on en a parlé hier, entre l'individu en tant que tel et ses attentes, et puis évidemment cette action collective qui est le propre de l'entreprise. Et ça, c'est un point fondamental parce qu'on se pose la question de face à cette liberté qui est souhaitée sur tous les sujets, quelle responsabilité on met en face d'un point de vue individuel, responsabilité en matière de performance, de contribution à la performance de l'entreprise, à la performance de l'équipe, mais aussi à la mission de l'entreprise. Et derrière, ça pose les questions plus profondes autour de qu'est-ce que nous, entreprise, RH, on est capable d'impulser au niveau de l'organisation de tout ça, du soutien de nos managers, pour faire en sorte que cette notion de responsabilisation, que cette notion de contribution collective, elle soit au-delà des mots, une réalité. Comme je disais, l'équipe est devenue le maillon fort. Comment on aide ces équipes à travailler ce collectif ? Au-delà de se rencontrer, comment on en fait des vrais sujets de performance globale pour l'entreprise. Pour moi, c'est des enjeux et des questions fondamentales qui, aujourd'hui, ne sont pas bien traitées au niveau des entreprises ou sous-estimées. Avant-dernier, je pense qu'on peut s'inspirer, et là, c'est mon cœur qui parle, du coworking pour ça. Non pas des espaces, mais de ce qu'ils représentent en termes de culture. Il ne faut pas oublier que les coworking, c'était des indépendants, il y a 15 ans, qui étaient seuls, qui étaient isolés, mais libres, et qui ont décidé de se rassembler d'abord dans des espaces pour partager des espaces, mais plus que ça, partager de la valeur, des projets, des compétences, et essayer de développer quelque chose qui dépasse leur propre liberté et qui soit une action collective. C'est ça les origines du coworking. Et c'est ça qui, à mon sens, doit être aujourd'hui inoculé dans nos entreprises. La devise d'un des premiers espaces parisiens, Mutinerie, qui a fermé ses portes malheureusement, c'était « Libre ensemble ». Pour moi, aujourd'hui, c'est ça le sujet de nos entreprises. Comment on arrive à aller vers ce libre ensemble, à arriver à jouer sur cette notion d'apporter de la liberté, mais dans le cadre d'une action collective efficiente et efficace, avec vraiment de la force pour l'entreprise. Et pour finir, et là je finis là-dessus, je trouve que ça se traduit très bien dans nos enjeux autour du travail hybride. Là, je vous ai présenté notre index hybride. C'est un outil qu'on a développé ces derniers mois, qu'on a fait tourner sur pas mal de nos clients, et qui permet de jauger sa maturité en matière de travail hybride sur les trois piliers du travail hybride que sont les espaces, la collaboration et l'organisation. Concrètement, on va jauger de quelle est votre maturité en termes d'agilité de votre siège social, des espaces de travail qui sont mis à disposition, de votre politique télétravail sur la partie espace, mais aussi sur la partie organisation, de qu'est-ce qui a été fait en termes de cadre dans l'entreprise, clarification du cadre, clarification des pratiques managériales, quels outils on a donné aux managers, quels outils on a donné aux équipes pour arriver à s'organiser. Et enfin, sur la partie collaboration, qui est cruciale, quelle est la culture de la boîte orale, écrite, quels sont les outils mis à disposition, et en termes de socialisation, comment les équipes se sont emparées de ces sujets d'animation et de vie du collectif. Tout ça est nécessaire, impératif. Qu'est-ce qu'on apprend des premiers résultats qu'on a ? Un, qui évidemment, il y a différents degrés de maturité très radicalement différents au niveau des entreprises, mais surtout, et c'est le point le plus important sur lequel je voulais vous alerter, qu'il y a des déséquilibres profonds dans l'intensité qui sont mises par les entreprises. Souvent, on va avoir des entreprises qui sont très bonnes sur les espaces et qui vont être complètement déficientes, et c'est souvent le cas sur la partie organisation, avec un cadre qui n'est pas assez clair, des accompagnements managériaux qui ne sont pas assez clairs, et de fait, des dynamiques de travail hybride qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Et donc pour moi, si j'avais un message à passer aujourd'hui, avant de passer la parole à mes collègues sur la partie digitale, c'est de vous dire, essayez d'emmener le plus possible de front ces trois sujets de la collaboration, des espaces et de l'organisation, et surtout, bien attention, à ce cadre. Pour donner plus de liberté, il faut soigner le cadre et soigner l'accompagnement de vos équipes. Merci.